Quelles sont les conditions de reprise dans les écoles? Pour en discuter, je suis avec Yves-Marie Jadet, secrétaire départementale du Nord de SNUIPP-FSU, qui est une organisation syndicale chez les enseignants du premier degré. En tant que représentant syndical, avez-vous été impliqué dans les discussions avec des représentants de l'éducation nationale sur le retour des élèves en classe?
Ce retour, il est cadré par un protocole sanitaire national. Il a fait l'objet d'échanges, effectivement, avec monsieur l'inspecteur d'académie. Il ne nous a pas été possible de le modifier. Ce sont des choses qui nous ont été imposées. La réouverture des écoles nécessite un dialogue, une concertation entre, pas uniquement avec nos supérieurs hiérarchiques, mais aussi avec les collectivités territoriales. Alors là, ça appelle de ma part quelques remarques, parce que il y a eu ici ou là quelques difficultés. Monsieur le Président de la République avait le 5 mai, nous avait dit la reprise va se faire dans la concertation, calmement, paisiblement. Il y avait une volonté de sa part, effectivement, de faire preuve de sérénité. Nous, on peut constater que sur le terrain, des collègues directeurs et directrices ont été mis à rude épreuve. Alors pourquoi ils ont été mis à rude épreuve? D'abord parce que ils ont dû rédiger un protocole local, parce que ce protocole national, il a une déclinaison départementale, et puis il a aussi une déclinaison par école, puisque la configuration des locaux, le nombre d'élèves par classe, le nombre de salles disponibles, a une influence sur la capacité ou non d'accueillir des élèves. Et par exemple, ce protocole nous demande de réorganiser les entrées-sorties. Il y a des écoles où il n'y a qu'une entrée ou qu'une sortie. Il faut également réfléchir au plan de circulation au sein de l'école. Alors, est-ce que l'école a plusieurs bâtiments, un seul bâtiment, plusieurs cours de récréation? Est-ce que c'est une école élémentaire, maternelle? Enfin bref, il a fallu donc adapter ce protocole à chacune de nos écoles. Et ça ne peut se faire qu'en concertation normalement étroite avec les collectivités territoriales. Et c'est aussi pour ça que le SNUIPP avait demandé, avait souhaité que cette reprise se fasse progressivement et qu'on laisse du temps aux équipes pour préparer ce retour des élèves. On regrette que dans certaines communes, ce retour nous ait été imposé dès aujourd'hui. Je pense par exemple, il y a des communes comme Tourcoing par exemple, il n'y a eu aucune concertation avec l'éducation nationale.
Les conditions de sécurité dans les écoles sont-elles suffisantes pour accueillir les élèves et le personnel?
La question du respect des gestes barrières, c'est quelque chose de difficile à mettre en œuvre. Alors, premier constat, c'est que nous, on s'étonne quand même qu'on ait fait reprendre les élèves les plus jeunes et que les lycéens ou les collégiens qui, a priori, sont plus à même de respecter ces gestes barrières, reprennent bien plus tard que nous. Donc, nous voilà en première ligne avec des élèves jeunes, des élèves pour lesquels on va leur demander de travailler dans des conditions totalement inhabituelles, puisque... Et je pense notamment aux écoles maternelles, mais pas uniquement. Je pense que les élèves de CP, CE1 qui sont de jeunes enfants, c'est pas naturel du tout de ne pas pouvoir s'échanger du matériel, de ne pas pouvoir être ensemble ou avoir des contacts dans la cour de récréation, de garder cette distance d'un mètre. Enfin voilà, c'est toute une organisation qui est complexe et qui nécessite un autre fonctionnement de l'école. Il y a la question de la livraison des masques, qui dépend de la responsabilité du gouvernement. Ce qu'on peut dire, c'est que la livraison a été pour le moins chaotique. On a eu des inspecteurs ou des inspectrices qui ont dû réceptionner ces masques ce week-end, des écoles qui ont été livrées, mais en nombre infime, c'est-à-dire que, par exemple, une école de 14 classes, elle a eu 50 masques. Ça veut dire qu'il va falloir recommencer l'opération. Enfin, voilà. Donc, ça génère de l'inquiétude.
Alors, que pensez-vous du libre choix aux parents de remettre leurs enfants à l'école?
Pour nous, c'est assez incompréhensible, parce que, d'abord, l'instruction est obligatoire. Alors, de deux choses l'une, ou les conditions sanitaires nous permettent de reprendre. Et là, tout le monde reprend. ou alors c'est pas le cas, et dans ce cas-là, faut-il réouvrir les écoles? Le risque, ce que nous pointons, c'est que nous avons, selon l'inspection académique, aujourd'hui environ 25% des élèves qui vont reprendre, un quart. Alors, ce chiffre-là cache des disparités très importantes. Il y a des quartiers, notamment les quartiers les plus favorisés, où on sera sur des taux de scolarisation bien plus élevés que 25%. Par contre, dans d'autres quartiers, les quartiers qui rencontrent des difficultés sociales, familiales, culturelles ou économiques, on sera sur un pourcentage d'élèves présents beaucoup moins important, parfois bien en dessous de 10%. Et donc, ce que se pointe du doigt, c'est que cette situation génère des ou met en évidence et accentue des inégalités sociales. Et nous savons que les inégalités scolaires ou les difficultés scolaires sont corrélées aux inégalités sociales. Et là, le risque, il est grand que nos élèves les plus en difficulté soient encore plus en difficulté à l'issue de ce confinement.
Dans certaines écoles, les places sont limitées. Y a-t-il des élèves prioritaires ?
Alors, théoriquement, ça se fait en concertation, en partenariat entre l'éducation nationale et puis les collectivités territoriales. Alors, en fonction de quels critères ? En fonction d'avoir des locaux et de la capacité à accueillir des élèves en respectant cette distanciation sociale. C'est-à-dire que normalement, il ne doit jamais y avoir moins d'un mètre entre deux élèves, quelle que soit l'activité. Donc ça dépend de la superficie de la salle de classe. Ça dépend aussi du nombre de personnels mis à disposition par les collectivités territoriales. Et donc c'est pour ça que chaque cas est singulier et que la taille des groupes d'élèves, le ministère a fixé à 15 au maximum. Pour nous, c'est beaucoup trop. 10 serait largement suffisant. 15 élèves maximum en élémentaire et 10 en maternelle. Donc, le travail qui a été fait par les collègues ou par les municipalités, c'est de définir la taille des groupes. Donc, c'est pour ça qu'on est sur des dispositifs où vous aurez des élèves qui auront classe, par exemple, lundi et jeudi, quand d'autres auront classe mardi et vendredi. Donc, il a fallu faire des groupes. Ça, c'est la responsabilité, donc, des équipes enseignantes. Alors, sur quels critères ? Il y en a 4. Il y a premier critère, ce sont les élèves dont les parents ont des métiers essentiels et ce sont des élèves qui sont considérés comme prioritaires. Bon, ce sont les enfants de personnel de santé, les enfants des personnels communaux, parce que bon, ils sont amenés à exercer un travail et pas forcément en télétravail, les enfants d'enseignants. La deuxième priorité, ce sont les enfants qui rencontrent effectivement des difficultés scolaires. Alors, ceux-là, on peut douter qu'effectivement, même s'ils sont prioritaires, c'est pas sûr qu'ils reviennent à l'école. De trois, nous avons les élèves en situation de handicap. Et puis, dernier critère, ce sont les fratries. C'est à partir de ces quatre priorités-là que seront constitués les groupes d'élèves.
Sur PFM, Yves-Marie Jadet, secrétaire départemental du Nord de SNUIPP-FSU. Alors le confinement va occasionner des retards sur le programme scolaire des élèves. Comment rattraper ce retard ?
D'abord, une chose, nos enfants, nos élèves, ils vont à l'école. L'instruction est obligatoire jusque l'âge de 16 ans. Donc on n'est pas sur une course de vitesse, on est sur une course d'endurance. Et puis, nos élèves, on peut espérer qu'ils s'engagent dans des études et qu'ils ne quittent pas l'école à 16 ans. Donc, ça va nécessiter d'abord à la rentrée prochaine, de faire le point sur ce qui aura été acquis ou pas acquis, sur ce qui aura été vu ou pas vu. Et le rattrapage, il faut l'envisager sur la durée. C'est-à-dire que, effectivement, à la rentrée, on ne va pas pouvoir considérer que, comme les autres années, le programme a été bouclé. Et donc, il faudra revoir ou voir des notions nouvelles qui auraient dû être vues dans la classe précédente. Ce qui nous est dit, c'est que la priorité, c'est pas de boucler le programme. La priorité, c'est d'abord de voir comment nos élèves ont vécu ce confinement, dans quel état d'esprit ils sont, et puis de retisser du lien avec eux, et puis tout doucement de se remettre sur les activités scolaires, mais n'imaginons pas qu'on va réussir sur les... Alors, il reste quoi, un mois et demi à faire tout ce qui aurait dû être fait pendant le confinement, à rattraper ce retard-là.
Alors, en primaire, est-ce qu'il y a eu des classes virtuelles ?
Oui, on a des collègues qui ont effectivement mis en place des classes virtuelles. Alors, ça appelle de ma part quelques remarques, c'est-à-dire que on n'était absolument pas préparé à travailler en distanciel. Et l'éducation nationale, malheureusement, n'avait pas les outils nécessaires pour le faire. Donc ça a été très laborieux, parce que ça signifie que il y avait des outils institutionnels qui, au début, n'ont pas été efficients. Et donc les collègues se sont un petit peu débrouillés comme ils ont pu. Mais ça a été la débrouille. Et là-dessus, nos collègues nous disent que ils ont été un petit peu seuls pour régler tous ces problèmes-là. Ce que ça a mis aussi en exergue, là, c'est que il y avait des familles dans lesquelles l'outil informatique était maîtrisé. Alors, quand je parle de l'outil informatique, c'est pas les jeux sur Internet, ou sur les consoles. C'est effectivement être capable d'utiliser un ordinateur. Il y a des familles qui avaient des compétences et qui ont permis à leurs enfants de suivre l'enseignement à distance. Et d'autres, pour des raisons diverses et variées, soit qui n'avaient pas le matériel, soit les connexions Internet n'étaient pas bonnes, soit voilà. Et qui, ces familles-là, elles ont vraiment été en difficulté.
Avec cette reprise des cours, est-ce que les classes virtuelles sont maintenues ?
Nous avons, selon l'inspection académique, 25% de nos élèves qui devraient reprendre le chemin de l'école, là, dans les jours qui viennent. Donc ça signifie qu'il y a 75%, les trois quarts de nos élèves, qui sont en distanciel. Eh bien, ça veut dire qu'une partie de l'enseignement sera dispensée dans les salles de classe et une partie qui sera dispensée via Internet. Donc oui, on va continuer à travailler comme on l'a fait pendant le confinement avec une partie de nos élèves.
Donc ça va demander une organisation différente pour les enseignants ?
Oui, bien sûr. Alors, les collègues qui seront en présentiel vont suivre leurs élèves. Les enfants qui ne seront pas présents en classe pourront être suivis soit par leur enseignant, leur professeur des écoles, soit par un autre collègue. Si un collègue assure 24 heures de présentiel, on ne pourra pas lui demander une double journée et à la fois de préparer sa journée de classe, de faire les corrections, d'animer la classe pendant 6 heures et le soir de travailler en distanciel avec ses autres élèves. Donc effectivement, ça va demander un travail d'équipe et la prise en charge des élèves d'une école sera faite par l'ensemble de l'équipe. Et donc effectivement, on ne pourra pas fonctionner comme on le faisait avant la mi-mars, c'est-à-dire qu'il y a des élèves qui vont changer d'enseignant.
Alors comment voyez-vous la rentrée de septembre ? Sera-t-elle normale ?
Je n'en sais rien parce que d'une part, j'ai pas les compétences médicales pour dire si oui ou non la situation sera normale. Quand je dis normale, c'est sur le plan sanitaire en septembre. Est-ce que ce virus sera encore présent ou pas? Je n'en sais rien. Mais le souhait, il est que l'on reprenne au plus vite avec l'ensemble de nos élèves. Alors, syndicalement, il y a cette situation, c'est que d'ores et déjà, on dit que à la rentrée, au regard de ce qu'on a vécu là depuis la mi-mars et de ce qu'on va vivre jusqu'au 4 juillet, date des grandes vacances, il faudra absolument qu'en septembre, on puisse avoir de la formation continue, parce qu'effectivement, il va falloir rattraper le retard que nous avons pris. Il va falloir que l'on puisse travailler avec des petits groupes d'élèves, puisque cet épisode que nous vivons n'est pas anodin. Et donc les revendications que nous portons pour le service public d'éducation, je trouve qu'elles sont d'autant plus légitimes, elles seront d'autant plus légitimes en septembre si on veut retrouver un service public d'éducation efficace et de haute qualité. Et donc ce qu'on m'a demandé aussi, c'est que nous avons dans l'éducation nationale des personnels qui sont des enseignants spécialisés, ce qu'on appelle les réseaux d'aide, les RASED. Ces réseaux d'aide ont été particulièrement affaiblis ces dernières années. Et bien, j'espère qu'en septembre, on pourra avoir des moyens à la hauteur pour répondre aux besoins de nos élèves.
C'était Yves-Marie Jadet, secrétaire départemental du Nord de SNUIPP FSU.